Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Vous faites peut-être partie des millions de praticiens de yoga à travers le monde. Cette discipline relie le corps et l'esprit. Plus qu'une pratique, c'est une philosophie. Elle est assimilée au concept de développement personnel. Mais elle est avant tout une science complète de la vie qui trouve son origine en Inde il y a des milliers d'années. Pour parler de cette merveilleuse pratique, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Valérie Sabatier, professeure de Hatha Yoga à Montcuq. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, tout d'abord Valérie, est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre perception, qu'est-ce que c'est le yoga ? Ce mot dont tout le monde finalement entend parler, mais qu'est-ce que c'est au fond ?
Le yoga, c'est une pratique qui permet de travailler sur le corps, le physique, à travers les différentes postures qu'on appelle asana en sanskrit, qui permet aussi de travailler sur la respiration avec des exercices qu'on appelle les pranayama, qui veut dire littéralement maîtrise du souffle, et qui permet aussi de calmer le mental, les agitations du mental. C'est même un des premiers buts du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, ce mmot veut dire aussi force. Hatha, ça veut dire force. Et c'est aussi une pratique qui donne beaucoup de force intérieure parce qu'elle permet justement de développer le calme mental tout en ayant une connaissance profonde de son corps, pour se réapproprier un petit peu son corps.
On a abordé donc le Hatha Yoga, c'est en Occident l'une des pratiques yogiques les plus connues. Concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter en plus de la définition respiratoire ? Qu'est-ce que ça peut apporter pour l'individu de pratiquer le yoga ?
Bien, dans une époque actuelle assez agitée, une époque où on est confronté à beaucoup de souffrances, on est très sollicité par les images, le son, de toutes les informations en permanence, mais aussi le monde du travail qui est assez... assez difficile, assez exigeant, un monde où les êtres sont beaucoup en compétition, on apprend ça déjà depuis l'école. Le yoga va essayer de permettre à la personne de se détacher un petit peu de tout ça, c'est-à-dire d'apprendre, en fait, ça permet à la personne qui pratique le yoga d'apprendre à vivre de manière paisible dans un environnement qui peut être un peu difficile. C'est vraiment un outil qui va permettre de prendre de la distance avec nos émotions, nos pensées, et en même temps, bien sûr, de connaître son corps physique. Voilà, parce que le corps physique, c'est quand même lui qui nous permet de traverser cette vie. Et vraiment, je trouve qu'à notre époque, c'est vraiment une discipline qui est très intéressante, parce qu'elle permet vraiment... Voilà, de se détacher un petit peu de toute cette agitation autour de nous. Donc on pratique, notamment grâce à la méditation, on va fermer les yeux pour pouvoir calmer déjà le sens de la vue, hein, tout de suite. Voilà. Et on va chercher à s'intérioriser et aller chercher en nous le calme, la force aussi, du coup, la force en nous. Et j'aime bien donner l'image de par exemple, vous imaginez un lac avec la surface de l'eau qui est assez agitée. Et tant que la surface de l'eau est très agitée, on ne peut pas voir le fond, en fait, du lac. Et bien, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. On est tellement agité qu'on n'arrive pas à être centré, en fait. On est un peu dispersé. La vie nous emmène dans ces dispersions-là. Et en fait, le fait de pratiquer le yoga, ça va permettre de vraiment calmer la surface de l'eau et d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes qui nous sommes vraiment. Donc, comme on peut voir le fond de l'eau quand l'agitation de la surface du lac devient toute lisse, eh bien, on imagine aussi que notre mental devient lisse comme la surface de l'eau de ce lac. Et on peut ressentir au plus profond de nous qui nous sommes vraiment, au-delà de notre éducation, au-delà de nos liens familiaux, de notre métier, de notre profession. Voilà, c'est vraiment aller chercher l'essence de nous-mêmes.
C'est un peu comme une réunion à soi-même, finalement.
Oui, tout à fait. C'est une réunion à soi-même, vraiment se dépouiller de tout ce qui est superficiel, en fait.
C'est un peu comme si on enlevait une enveloppe.
Oui, tout à fait.
Un surplus.
Oui. Oui, un surplus, c'est le bon mot, en fait. On est tellement chargé de beaucoup de choses qui n'en sont pas forcément très utiles, ou toujours très utiles. Et là, c'est vraiment aller revenir à l'essentiel. Et quand on commence à pratiquer, aller revenir à l'essentiel, on se rend compte que ça nous apporte beaucoup de joie. Vraiment, la pratique du yoga, je pourrais aussi dire ce mot de la joie. C'est vraiment une pratique qui permet d'aller chercher la joie au plus profond de nous-mêmes.
Vous parliez tout à l'heure de l'importance de la respiration dans les exercices. Quelle est cette importance? Parce qu'on a tous l'impression de respirer dans notre quotidien. Et pourquoi tant d'attention par rapport à cet exercice qui paraît anodin?
Mais je pourrais vous poser la question, par exemple... Combien de fois dans votre journée vous êtes consciente de votre respiration? Voilà, donc on peut poser cette question et on se rend compte qu'effectivement, pratiquement jamais. On va peut-être en être conscient quand tout d'un coup on reçoit un choc, on a la respiration tout d'un coup qui s'accélère, bon, ce genre de situation. Mais sinon, dans une journée, depuis le matin jusqu'au soir, c'est très très rare de tout d'un coup se dire tiens, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc déjà ce constat-là, en fait la respiration, c'est vraiment le témoin de la vie. Tant que je respire, je suis en vie. Cette énergie qui fait que je respire, c'est une énergie voilà, qui est dans notre corps. Et pratiquer des exercices de respiration, c'est se reconnecter à cette énergie de la vie en nous, tout simplement. L'énergie de la vie en nous. Et c'est aussi un outil intéressant de pratiquer donc des exercices de respiration à travers les postures de yoga. Parce que quand on se concentre sur notre respiration, ça a un effet immédiat de calmer le mental. Donc c'est vraiment une aide préparatoire aussi à la méditation. Et puis bien sûr, le fait de bien apprendre à respirer, cela permet évidemment au niveau physique d'oxygéner tout le corps. Et on va même, quand on va respirer, on va même essayer d'aller penser à tous nos organes internes qui fonctionnent en permanence sans que jamais on y pense, en fait. Et pourtant, ils sont là. Et ça peut aussi procurer de très agréables sensations de respirer comme si on voulait oxygéner ses organes. Voilà, tous ces organes internes de digestion,
Alors qu'il est vrai que dit comme ça, la respiration, on est tous à se poser la question, est-ce que j'ai respiré pendant que j'ai écouté? Ça
oui,
peut être intéressant aussi d'observer ça.
Exactement.
Quand on parle de yoga, on imagine immédiatement des postures compliquées, ou une attitude un peu définie, un peu conventionnée. Qu'en est-il par rapport à ces pratiques, à ces postures? Souvent, on va se dire, mais j'ai pas la souplesse de faire du yoga, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Ou non, c'est trop mou, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme ça?
Alors, les postures, donc les asanas, dans les textes anciens de yoga, donc il y a plusieurs sortes de postures, il y en a énormément. Et ce sont vraiment des exercices différents et précis pour travailler certaines parties du corps. Chaque posture va pouvoir faire travailler le corps sur telle ou telle énergie et on peut associer à telle et telle posture, telle et telle respiration. Pour pratiquer le yoga, il faut quand même un minimum de conditions physiques, on va dire. Si on a vraiment un handicap physique important, peut-être on peut plutôt commencer par faire de la sophrologie, par exemple, le temps de retrouver peut-être un minimum de forme physique. Mais c'est quand même accessible, vraiment, si on est capable de marcher, 30 minutes par jour, de pouvoir... se baisser pour ramasser quelque chose qui est par terre, par exemple, c'est tout à fait possible de pratiquer le yoga. Parce que ce qui est important dans les postures de yoga, ce n'est absolument pas l'image, en fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on va prendre par exemple une posture qui s'appelle le chien tête en bas. Bon, c'est comme si on était en forme de V avec la tête donc vers le sol et puis les jambes, les pieds au sol. Bon, les fesses en l'air, en fait. Donc, pour cette posture-là, par exemple, ce qui va être important, c'est de l'adapter à son propre corps et à ses propres limitations physiques. Dans l'idéal, c'est un V parfait. Mais dans la majorité des cas, les gens vont devoir plier les jambes. Peut-être, on ne pourra pas complètement relâcher sa tête. Mais ça, ce n'est pas très, très grave. Il faut vraiment comprendre que les postures de yoga, elles sont là pour que la personne se l'approprie. En fait. Et d'ailleurs, la mise en posture, c'est aussi intéressant que la posture finale. C'est-à-dire que c'est très important de prendre le temps d'aller poser son corps dans la posture, d'y rester, voilà. Mais de sentir vraiment, voilà, de s'approprier la posture et d'oublier vraiment toutes les postures aussi un petit peu compliquées quand on n'a pas de souplesse physique. Au contraire, on peut pratiquer du yoga et même, je dirais, il faut pratiquer du yoga parce que moins on est souple, et plus justement le corps est raide et a besoin de s'assouplir. Mais plus on vieillit aussi, et plus le corps se raidit. Quand on voit, on regarde un bébé par exemple, les bébés sont capables de mettre le pied dans la bouche, de sucer leurs orteils. Bon, et puis plus on va vieillir, plus on va devenir raide en fait. Et donc, en fait, le yoga va permettre d'entretenir cette souplesse qui est importante parce que, pour toutes les articulations, bien sûr, c'est important et ça évite beaucoup de souffrance. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'une grande forme physique au départ. Mais ce qui est important, c'est de savoir, de connaître ses propres limites. Et quand on participe à un cours de yoga, de ne jamais aller trop loin par rapport à ce que notre corps peut faire. Voilà, parce que des fois, bon, le professeur ne peut pas non plus être derrière chaque personne, mais c'est important que les personnes sachent, voilà, là, je dois m'arrêter là parce que sinon, je vais me faire mal.
Quelles sont en général les démarches des personnes qui viennent suivre des cours de yoga? Est-ce que ce sont des démarches d'ordre musculaire, d'ordre philosophique ou autre?
Honnêtement, dans mes pratiquants, j'ai un petit peu de tout, mais peut-être il y aurait quand même un point commun entre des gens qui veulent faire du yoga plutôt que de la gymnastique, du stretching ou ce genre d'autres pratiques. Il y a quand même souvent une souffrance mentale, quand même. On sent que les personnes ont besoin d'apprendre à se calmer, d'apprendre à ralentir leur vie et d'apprendre aussi la méditation, justement, parce que c'est la méditation qui va aider à cela. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont un problème physique particulier et qui viennent vers le yoga parce que c'est quand même, ça peut être une approche très douce du corps. Et c'est aussi une approche vraiment très complète. Ce que je pourrais dire peut-être, la différence entre de la gymnastique et un cours de yoga, ça va être l'attention sur le corps, la respiration et les pensées, en même temps qu'on pratique.
Ramener une unité, c'est ça?
Voilà, exactement. Ramener une unité, c'est d'ailleurs la signification du mot yoga, en fait. Parce que le mot yoga, ça vient de la racine yu, et ça veut dire unir. Et on parle donc de cette union, cet équilibre, en fait, cette harmonie entre le corps, le mental. Voilà.
Qu'est-ce qui, selon vous, peut définir l'engouement que le yoga peut porter depuis ces 30 dernières années, à peu près, voire même un peu plus?
Je pense que c'est un petit peu, justement, l'agitation de nos sociétés, en fait, où les gens peut-être sont en manque de choses essentielles et on vit quand même dans un monde assez matérialiste et superficiel. Et je pense que les gens ont un besoin profond de retrouver des choses vraies. Et le yoga, c'est vraiment le but du yoga, de retrouver notre vraie nature.
Alors, on parle de définition de bienfaits physiques, mais il y a aussi une définition de bienfaits sur les plans beaucoup plus subtils, dits énergétiques. Quels sont-ils?
Eh bien, quand on commence à pratiquer le yoga, d'abord, on commence à prendre vraiment conscience de son schéma corporel. On se réapproprie son propre corps physique jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de nos cheveux. C'est vraiment voilà, une réappropriation complète du corps. De par la respiration, on prend conscience de l'énergie qui circule en nous. Bon, ça peut paraître un peu abstrait comme notion, mais quand on pratique, on en prend conscience de cette énergie. Qu'est-ce qui fait que je respire ?
Le côté peut-être plus subtil dans la définition. Déjà les chakras aussi, en oui. rappelant un petit peu à chacun ce qu'est un chakra.
Oui. Alors le chakra, en sanskrit, on dit le mot chakra. Le mot chakra, ça veut dire roue, littéralement. Et en fait, les chakras, ce sont des... On peut donc visualiser comme un carrefour de l'énergie. On peut visualiser une roue qui tourne. Et comme on connaît peut-être un peu mieux les méridiens chinois, en yoga, on va parler de nadi. Ce sont le nom pour les méridiens, en fait. Et en fait, les chakras, ce sont les carrefours de ces nadis. Donc, ce sont des carrefours de l'énergie, de circulation de l'énergie dans notre corps. Ce sont des carrefours, donc, qui l'énergie arrive là et est redistribuée dans tout le corps. Bien évidemment, ça ne se voit pas au niveau physique. Si on fait un scanner, une radio, on ne va rien voir du tout. Par contre, on peut soi-même ressentir ces chakras. On pourrait dire, par exemple, quand on a un stress, on peut ressentir la gorge qui se resserre ou dans la poitrine, ça peut se refermer. Et bien justement, au niveau de la gorge, il y a Vishuddhi chakra, c'est un chakra, le chakra de la communication, de la parole. Au niveau du cœur, il y a Anahata chakra, c'est le chakra de l'amour, de la compassion. Voilà. Donc ces chakras, il y en a des centaines dans le corps, mais on en reconnaît certains qui sont plus importants, qui sont situés le long de la colonne vertébrale. Et donc en yoga, on va travailler aussi sur ces zones, donc notamment bien sûr grâce à la respiration, mais aussi grâce à la concentration. Et on peut aller se concentrer sur ces différentes zones. Donc ça va prendre beaucoup de temps, bien sûr, parce qu'au début, bon, on a un petit peu du mal à se concentrer sur ces zones-là. Mais petit à petit, avec beaucoup de patience et de persévérance, on ressent voilà, que ça se détend, que ça se relâche. Et on peut faire ce travail sur les chakras aussi lors de différentes postures ou plutôt pour la méditation. Et donc toutes ces zones, en fait, le but, ça va être de les ouvrir, de les détendre, voilà, pour que le corps en bénéficie dans son ensemble.
Alors là, c'est sur le côté subtil énergétique, mais il est constaté qu'au niveau mental, il y a un réel bénéfice, notamment avec la pratique régulière du yoga ou de la méditation aussi, qui sont complémentaires finalement.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, dans votre expérience en tant que professeur de yoga ?
Eh bien, le fait de pratiquer régulièrement, ça c'est vraiment important, j'insiste, parce que c'est vraiment le yoga, c'est un outil très complet, mais on va pouvoir en ressentir les bénéfices que si on pratique vraiment régulièrement. Parce que c'est quand même une pratique qui est assez exigeante, dans le sens où il faut beaucoup travailler la concentration, il faut prendre le temps. Et donc ce que je pourrais dire, c'est que petit à petit, grâce à la connaissance de notre corps, grâce aussi à la concentration, parce que j'en ai pas encore trop parlé, mais la concentration en sanskrit, ça, on va dire dharana, la concentration c'est un élément clé du yoga aussi. La concentration est le fait de se concentrer sur l'instant présent. Parce que quand on veut chercher à aller retrouver notre vraie nature, en fait, on peut visualiser le mental comme un balancier en fait d'une pendule qui irait tout le temps à droite, à gauche, ou alors plutôt dans le passé, chercher toutes les histoires du passé, des fois même les souffrances du passé bien sûr, et les peurs de l'avenir. Enfin, voilà, le mental se balade en permanence dans le passé, dans l'avenir. Et avec le yoga, on va vraiment chercher à le ramener au centre, dans notre centre, donc à l'instant présent. Et pour ça, on va utiliser la concentration. Et donc la concentration sur la respiration, sur les postures, sur les chakras, ça va être vraiment un outil essentiel pour aider à calmer ce mental.
Quelle est la différence entre la méditation et la concentration ?
Eh bien, en fait, la méditation, donc c'est dhyana en sanskrit, c'est le résultat de la concentration. C'est-à-dire que quand on fait les exercices de concentration, on se prépare à la méditation. Et là, le mental, il est très actif, puisqu'il cherche à se concentrer. Et vous pouvez visualiser comme si vous cherchiez à... Vous imaginez, vous voyez dans votre mental, il y a tout un tas de pensées qui sont là, qui arrivent, qui disparaissent, qui reviennent. Et comme si tout d'un coup, toutes ces pensées, vous vouliez les réunir en un seul point. Donc vous l'essayez comme un faisceau laser. Donc vous essayez de vous concentrer sur un seul point et d'ignorer en fait toutes les pensées autour. Et quand vous réussirez à maintenir cette concentration sur un seul point, alors, et seulement alors, le mental entre en méditation, dhyana. C'est la résultante en fait de la concentration. De la concentration et je pourrais dire de tous les exercices qui ont précédé, bien sûr, c'est-à-dire les exercices de respiration, les différentes postures ou d'autres exercices de l'Ashtanga Yoga, des 8 membres du yoga dont je crois nous allons parler après. Donc la dhyana, c'est vraiment un état dans lequel le mental ne fait plus rien. C'est vraiment l'état dans lequel vous êtes, le mental est comme l'eau du lac, complètement paisible et inactif, si je puis dire. Alors, il peut y avoir encore un peu des pensées qui surviennent, mais vous n'êtes plus du tout identifié ni attaché aux pensées. Vous voyez la pensée qui naît dans le mental et qui disparaît, qui naît et qui disparaît.
Justement, on va y venir à ces 8 voies du yoga. Quelles sont-elles ?
Alors, les 8 voies du yoga commencent par 2 voies qui s'appellent les yama et les niyama. Alors ça, je ne vais pas toutes vous les énumérer parce que ça sera un petit peu long, mais ce sont des disciplines de vie, par exemple, c'est des attitudes de vie comme la non-violence, comme le fait de, dans la nature, ne prendre que ce dont nous avons besoin, voilà, ce genre d'attitude. Donc ça, ce sont les 2 premiers membres. Le 3e membre, ce sont les postures de yoga, les asanas. Donc toutes les postures qui vont permettre de détendre le corps, de l'assouplir et de le connaître aussi. Le 4e membre, c'est les pranayamas. Donc ce sont des exercices de maîtrise du souffle ou de maîtrise de l'énergie dans le corps, puisque prana veut dire énergie en sanskrit. Donc pranayama, c'est maîtrise du souffle. Le 5e membre, c'est pratyahara. Pratyahara, ça veut dire retrait des sens. Parce que comme nous allons chercher à calmer le mental, les sens, nos 5 sens, ils sont là pour, au contraire, mais à nous prévenir de tout ce qui se passe autour. Et donc, c'est la porte d'entrée à toutes les pensées et toutes les émotions. Et donc, en yoga, on va chercher à retourner les sens comme si on voulait que tous ces sens, plutôt qu'ils soient dirigés vers l'extérieur, se dirigent vers l'intérieur. Donc il existe aussi des pratiques spécifiques, des petits exercices spécifiques pour travailler cela. Voilà. Donc pratyahara, ensuite nous avons dharana. Dharana, donc c'est la concentration. Donc là aussi des exercices de concentration qui prennent différentes formes. Ensuite nous avons dhyana, le 7e membre, la méditation. Et enfin le dernier membre, ça s'appelle samadhi. Et samadhi, ça veut dire en sanskrit, c'est l'état de béatitude.
Une espèce d'illumination.
Voilà, c'est ça.
C'est toute une philosophie, en fait, initialement.
Oui, bien sûr, c'est toute une philosophie de vie. Quand on souhaite vraiment pratiquer le yoga, qu'on entre dans le monde du yoga, c'est très, très riche parce que ça touche à toute la vie, en fait, à tous les aspects de la vie. C'est vraiment pour moi un outil qui permet de traverser toutes les difficultés de la vie. Un outil qui permet d'apprendre aussi à se servir de notre corps, de notre mental, à maîtriser notre mental aussi. Mais alors, ce qui est important aussi, c'est peut-être de dire, par rapport aux pensées, à l'agitation des pensées, parce que je sais que ça concerne souvent beaucoup de personnes, le but, ça ne va pas être d'arrêter de penser ou de refuser les pensées, les émotions. C'est plutôt de prendre de la distance, d'essayer d'être témoin de nos émotions et de nos pensées. Je pense notamment, par exemple, à des personnes qui peuvent avoir subi des traumatismes et pour lesquelles le yoga peut vraiment faire beaucoup de bien. Le but, ça ne va pas être de dire non, je ne veux plus se ressentir cette souffrance. Ça va être au contraire de la regarder, de l'accepter, de l'accueillir. Et déjà, quand on se place dans cette position de témoin, on n'est plus identifié à l'émotion. Et c'est vraiment voilà, cette petite différence là, voilà, qui permet d'aller trouver le calme.
Et les enfants dans tout ça, est-ce qu'ils peuvent pratiquer le yoga ou est-ce qu'il y a un âge requis avant d'entamer cette démarche-là?
Alors je dirais que avant l'âge de 12 ans, on peut pratiquer le yoga, mais ça va être très adapté donc aux enfants. Il faut pratiquer un yoga qui soit amusant, parce que c'est vrai que le yoga, il y a beaucoup de postures qui ont des noms d'animaux. Donc on peut aussi, quand même aussi, faire quelques petits exercices de respiration, mais ça va rester très simple. Il ne faut pas faire quelque chose de trop compliqué. À partir de 12 ans, on peut commencer à leur apprendre vraiment la méditation, les bases du yoga. Oui, à partir de 12 ans, c'est tout à fait possible et même recommandé, je dirais.
Ils ont cette disponibilité-là physique et peut-être aussi dans la réflexion par rapport à la démarche.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que quand on a la chance de pouvoir l'apprendre jeune, on met en place des habitudes, permettre de gérer les émotions, le stress. On peut les mettre en place quand on a la chance de pouvoir les mettre en place à l'âge de 12 ans. C'est vraiment un grand bénéfice pour l'avenir.
Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Le mot de la fin, pour vous, ça serait quoi?
Ça serait de dire peut-être que le yoga, c'est vraiment une science de la vie qui apprend à trouver la joie et l'amour au plus profond de nous-mêmes. Parce que c'est vraiment notre vraie nature, au plus profond de nous-mêmes. Quand on est dépouillé de toutes les émotions, qu'elles soient négatives ou positives d'ailleurs, quand on va chercher ce calme au plus profond de nous-mêmes, on est dans une grande joie. Et une joie permanente. C'est une joie profonde, forte, stable et durable. Ce n'est pas une joie qui va être liée aux événements extérieurs, parce qu'elle est là, au plus profond de nous-mêmes.
Très belle approche. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la démarche du yoga, vous pouvez retrouver Valérie à Moncuq.
Oui, donc je donne des cours sur Moncuq le jeudi soir et le vendredi matin. Voilà.
Vous avez peut-être un site internet?
Oui, ça s'appelle l'atelier yoga et méditation.
Voilà, alors atelier yoga et méditation à Moncuq avec Valérie Sabatier.
Merci.
C'était Daniel en compagnie de Valérie pour l'émission Fenêtre sur soi. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. Et je vous dis à très vite. Au revoir.